Oui. Je vous demanderai bien sûr de prendre vos Bibles, merci, en premier dans 1 Corinthiens au chapitre 15, merci beaucoup. Je crois que c'était ce qui était mentionné sur le flyer, le prospectus. Voilà l'apôtre Paul qui s'adresse à, entre autres à cette église, bien sûr, de Corinthe. C'est sans doute une des églises qui a eu le plus de difficultés. Et peut-être, ben, c'est pas uniquement peut-être, mais c'est vraiment une certitude que cette église manquait de fermeté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens 15, au verset 58, ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et puisqu'on est au chapitre 15, regardez le chapitre 16, juste à côté. Il est dit au verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et je crois que, comme le Seigneur nous dit ici au verset 13, pour être, soyez des hommes, ben, il faut de la fermeté. Alors, que le Seigneur dirige, nous verrons en premier qu'est-ce que c'est que la fermeté. Et nous verrons, si Dieu le permet, dans cet après-midi, comment rester ferme. C'est surtout ça. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'expérience, mais j'aime bien, et je ne dis pas que je me tienne toujours dans cette ligne-là, mais peut-être ça vient déjà de l'enseignement de mon père. Il me disait souvent, quand tu commences quelque chose, va jusqu'au bout. Si c'est vraiment une conviction. Alors je ne dis pas que je suis toujours dans cette ligne, qui est, je crois, biblique aussi, mais dans le domaine, évidemment, de la foi, dans le domaine de l'espérance, dans le domaine de notre croissance spirituelle, il faut un début, et puis il faut continuer, et la fin, nous l'aurons auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Et alors c'est pour cela que, il y a un passage où je vois quatre étapes pour cette fermeté et je vous demanderai de prendre avec moi Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, excusez-moi, mais j'ai vraiment à cœur que l'on voit un maximum de versets bibliques. Alors ne soyez pas étonnés si on voyage tantôt dans l'Ancien, tantôt dans le Nouveau Testament, mais je voudrais réellement que ça soit la parole de Dieu qui soit prêchée et non pas nous-mêmes. Je pense à ce que l'apôtre Paul dit. À un certain moment, il dit « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons, n'est-ce pas, évidemment, Christ, la prédication de la croix. » Et ici, dans Colossiens, au chapitre 2, voilà ce que Dieu dit à cette église de Colosse. Je suis au verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je suis absent de corps, mais je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Et alors regardez, avant de parler de fermeté, je crois que nous avons ici quatre étapes avant cet affermissement. Il est dit au verset 6, « Ayant donc comme vous avez reçu, première étape, le Seigneur Jésus-Christ, 2, marcher en lui, 3, étant enraciné, 4, et fondé en lui, et alors voilà la fermeture qui est là, c'est le cas de le dire, et affermi par la foi, et évidemment à ce moment-là, alors abondé en action de grâce. » Et je crois qu'on ne peut pas parler d'abord de fermeté s'il n'y a pas la personne, peu importe qui c'est, un homme, une femme, un jeune, un enfant, On ne peut pas parler de fermeté s'il n'y a pas eu ce départ reçu. Il a reçu le Seigneur en lui. Parce que c'est lui qui va nous rendre forts en lui, qui va nous établir en lui. Et alors c'est pour cela que j'ai l'impression que cette deuxième étape, il est dit ici, marcher. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on marche, on a besoin d'être ferme. J'ai découvert ces derniers temps, excusez-moi de parler de moi, j'ai découvert ce dernier temps une application que j'avais sur mon smartphone que je ne connaissais pas. Alors, je vais tout vous dire, bon, j'ai eu une panne au mois d'avril de portable à cause de ma batterie, elle ne fonctionnait plus, etc. Vous savez ce que c'est aujourd'hui, il faut changer vite de matériel. Alors me voilà avec un smartphone tout nouveau. Et alors évidemment, comme je suis quand même un petit garçon, Evelyne peut vous le dire, mais j'ai fouillé partout, j'ai touché ici et là pour trouver les nouvelles applications. Et voilà que je ne l'ai pas du tout fait exprès. Je me suis mis une application où on me compte le nombre de pas que je fais. J'ai en moi en ce moment le smartphone et je sais que plus je ferai de pas, plus à la fin de la journée, ils vont me dire, eh ben, alors le mieux c'est d'en faire 10 000 pour notre santé, je vous le dis tout de suite. Mais c'est ça, et je crois que pour notre santé spirituelle, il faut cette marche, la marche par la foi, la marche par l'esprit. La marche dans l'amour, etc. Combien de fois nous voyons la marche, oui, c'est salutaire. Est-ce que nous marchons assez dans la journée avec le Seigneur? Et puis, il est parlé ici de enraciner et fonder. Et ça, c'est très important pour la fermeté de la foi. Je l'ai souligné, enraciner. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que... La Bible dit qu'il y a beaucoup de vent contraire. Et si on n'est pas bien établi, la fermeté enracinée, le vent va nous conduire à être, comme dit la Bible, on le lira tout à l'heure, des enfants flottants à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes de plus en plus exposés à ces vents de doctrine, et je crois que c'est important pour nous d'être ferme. Et c'est pour cela que le quatrième point, c'est quand même fonder et affermer. C'est la même racine que la fermeté. Peut-être que je sais que la plupart vous le savez, mais petit rappel pour nous. La fermeté, c'est quoi? Alors j'aime bien regarder l'étymologie des mots. Alors j'ai regardé que c'est un mot qui vient du latin « fermus », qui veut dire « solide ». Voilà la fermeté. Donc, la fermeté, c'est de la résistance pour devenir solide. C'est quelqu'un qui se laisse éprouver pour devenir ferme et pour arriver au dernier point qui est inébranlable. Alors moi, je ne suis pas là, je ne sais pas vous. Mais nous avons besoin de ces différentes étapes pour être et devenir inébranlable. Je continue. Quand on parle, bien sûr, de fermeté, on parle d'un état de celui qui résiste à toute chose. Est-ce que je résiste? Je parlais à l'instant des vents de doctrine. Pourquoi? Ben parce que l'apôtre Paul lui-même, quand il prêchait et qu'il a... J'entendais tout à l'heure, et gloire à Dieu qu'il y ait des formations d'anciens. C'est important de plus en plus. Et l'apôtre Paul, vous le savez que pendant son ministère, il a eu à cœur parce qu'il sentait que c'était les derniers moments pour lui. Il allait rejoindre la gloire de Dieu. Et il a voulu réunir tous les anciens d'Éphèse et de tous les environs. Et alors voilà ce que je lis. Il les exhorte, il les encourage, encore une fois. Et puis il leur dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, dès mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et puis qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors là, nous sommes à peu près dans les années 40-45 quand Paul parle. Et alors, quand on arrive à la fin de son ministère, dans les années 60, vous savez qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'amour pour Timothée. C'était quelqu'un qui, pour lui, c'était son fils spirituel, il l'a formé. Et alors, il lui donne des dernières exhortations. Dans 2 Timothée, c'est au moment où Timothée a des larmes. Et Paul lui dit, je me rappelle des larmes que tu as versées. Et alors, entre autres, il lui dit, et voilà ce qui nous concerne, il lui dit, je t'en conjure devant Dieu, je suis pour ceux qui ont cherché le texte dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de l'apparition de notre royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi ? Ben parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, et puis supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, et remplis bien ton ministère. Je m'arrête, vous l'avez compris, sur cette prophétie. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et de plus en plus, cette prophétie s'accomplit. S'accomplit parce que j'ai aimé ce que tu as partagé, Bill, l'importance de rester sur la saine doctrine, de ne pas se laisser emporter par des nouvelles philosophies, des nouvelles interprétations, etc. Pourquoi ? Parce que nous ne pourrons jamais devenir fermes. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la fermeté. Et pour la fermeté, il faut, comme nous l'avons vu, un enracinement. Plus je suis enraciné dans la saine doctrine, plus il y aura des vents et plus je vais résister. Je suppose, comme vous, que vous avez suivi l'actualité de ces ouragans qui ont soufflé. J'ai noté ici, surtout dans les Antilles, au travers de, des lieux comme Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et alors, en écoutant les informations, j'ai appris qu'un des journalistes, je ne sais pas vous, mais j'écoute beaucoup Europe 1, mais le journaliste d'Europe 1 qui a réussi à arriver à Saint-Martin avant la tempête, il est allé, bien sûr c'était prévu je suppose, hein, mais il est allé dans une maison où les vents, on pouvait résister à des vents de 300 à l'heure. Alors il était là, c'était un des seuls journalistes, il y en avait d'autres, mais qui a pu nous donner, bien sûr, des informations par rapport. Alors, il a dit, c'est incroyable ce que j'ai vécu là-dedans. Mais il a résisté, la maison a résisté. Comment ne pas penser à Matthieu chapitre 7, quand il est parlé du fou et du sable et du sage. La Bible dit que autant le fou comme le sage, Matthieu chapitre 7, il va y avoir des vents pour l'un comme pour l'autre. Il va y avoir des torrents d'eau. Il va y avoir des pluies. Mais la conclusion de cette histoire, vous la connaissez dans Matthieu chapitre 7, c'est qu'une maison va résister et l'autre va s'écrouler. Oui, est-ce que nous voulons devenir de plus en plus fermes, la fermeté ? Pourquoi ? Mais parce que dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 17, il est dit, attention, il y en a certains qui vont déchoir de la foi, déchoir de la vérité. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Alors, voilà que dans Colossiens, chapitre 2, verset 5, il est parlé de la fermeté de la foi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il est parlé de la fermeté de l'espérance pour ne pas déchoir. Qu'est-ce que c'est la fermeté de l'espérance ? C'est pouvoir dire, comme l'apôtre Paul l'a dit au moins à deux occasions, « Je sais en qui j'ai cru. » Parce que la foi, Dieu compare la foi entre autres à une ancre, et plus cette ancre, on la touche, plus on la tire, plus elle s'enfonce. Et c'est ça. Et plus on va avoir des vents, si nous sommes réellement dans cette fermeté que Dieu seul peut nous donner, alors je vais pouvoir résister. Je continue. Pourquoi la fermeté? Mais pourquoi la fermeté? Parce que nous pouvons avoir ces moments de tempête dans notre vie, des moments d'hésitation, des moments de doute. Et comme il y a sans arrêt de nouvelles doctrines et de nouveaux enseignements, alors qui de nous n'a pas à un certain moment eu des moments de doute, d'hésitation? Et alors quoi? Et à ce moment-là, je sais que je dois plonger de nouveau mes regards dans la parole de Dieu. Je dois de nouveau renforcer ma communion avec Dieu, très important. Je dois de plus en plus être dans cette communion avec Dieu. Ne pas l'oublier qu'il y a certaines choses où on ne peut pas avoir de la fermeté. Alors je pense à quelque chose que l'apôtre Paul a vécu quand il est allé à Athènes. Je crois que la fermeté, ce n'est pas la dureté. Alors je m'explique. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, nous savons que c'était une ville depuis des siècles qui était très très plongée dans la philosophie. Et quand nous sommes à peu près dans les années 40 là aussi, quand l'apôtre Paul arrive à Athènes, il y a deux philosophes qui ont beaucoup de succès. Il est dit ici de quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, ils annoncent comment Jésus et la résurrection, disant qu'il semble annoncer des divinités étrangères. Et alors je me suis arrêté sur épicurien et stoïcien. Je le répète, j'ai noté ici qu'à d'autres moments, c'est peut-être les philosophies de Platon, de Socrate. C'était des philosophies d'Aristote. Mais à ce moment-là, c'était les épicuriennes et les stoïciens qui avaient du succès. Alors, c'est vraiment les deux extrêmes pour ces deux philosophes. Je ne veux pas faire une leçon de philosophie. Mais quand on parle d'épicuriennes, alors c'était... rien à voir avec la fermeté, mais rien à voir avec la fermeté. Au contraire, c'était toujours le plaisir, c'était le bon repas, c'était la jouissance, c'était l'absence de toute douleur, de toute absence de toute souffrance. Voilà l'épicurien. Je ne sais pas ici dans votre région, mais j'ai remarqué que de plus en plus à Toulouse, il y a des restaurants qui s'appellent Épicure. Voilà. Alors ça rejoint un peu ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 32, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et c'était ça, et la philosophie de l'épicurien, c'est ça. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus des proportions comme cela. Tout est loisir, tout est fête, nous revenons à l'état de l'Empire romain, où l'Empire romain, c'était le pain et des jeux. Alors manger un peu, que l'on puisse manger, et surtout jouir la vie. Voilà un peu l'épicurien. Alors ça n'a rien à voir évidemment avec la fermeté, quelque chose de solide. Par contre, et je ne vous demande pas de devenir des stoïciens, mais quand on parlait des stoïciens, donc c'était, j'ai noté le philosophe Zénon qui a trouvé cela, alors là c'est tout à fait l'autre extrême. C'était la maîtrise de soi. Le stoïcien, c'était l'indifférence au plaisir, à la douleur. C'était une fermeté devant l'adversaire, tout ce que l'on veut. Oui, mais c'était la dureté. Et Dieu ne nous demande pas. Nous ne nous demande pas de nous réjouir. Nous ne nous demande pas de manger, de boire. Dieu ne nous demande pas de devenir des durs. Ça, c'est une des philosophies qui existe aujourd'hui, être des commandos, être des coachs, et puis être des superman, n'est-ce pas, etc. Pas du tout. Dieu ne nous demande pas d'être là. Mais d'être, dans la mesure voulue de Dieu, la fermeté de Dieu. De pouvoir dire, oui, je sais en qui j'ai cru. La fermeté en lui. L'enracinement, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous savez que les arbres qui veulent vraiment de plus en plus rester dans cette fermeté, solidité, ben ils cherchent et les racines se déploient de plus en plus pour chercher de la nourriture, mais chercher aussi de l'eau. Combien je pense à ce passage de Jérémie chapitre 17 où il est dit « Heureux l'homme ». L'homme qui a mis sa confiance en Dieu. Il est comme un arbre enraciné, n'est-ce pas, au bord d'un courant d'eau. Est-ce que je cherche cet enracinement comme un arbre? Pourquoi? Ben parce que à partir de ce moment-là, j'aurai aussi une bonne nourriture. Et j'ai noté ici que un des éléments pour la fermeté, bien sûr, c'est avoir une bonne nourriture. Alors on comprend pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, j'aime beaucoup ce jeune Timothée, de quelle manière il a été formé par Dieu au travers de l'apôtre Paul. Et alors l'apôtre Paul qui voulait le rendre solide, alors il lui dit, dans 1 Timothée au chapitre 4, « Nourris-toi pour être un bon ministre de Jésus-Christ, nourris-toi des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Et c'est là où la fermeté va de plus en plus se développer à nous. N'oubliez pas le verset de tout à l'heure dans Colossiens chapitre 2. Il a reçu Jésus-Christ, tu as marché avec lui, tu veux maintenant t'enraciner et à ce moment-là t'affermir. La fermeté ne vient qu'en dernier. Est-ce que je veux bien me nourrir? Est-ce que je veux quitter mon état de bébé, d'enfant? Que c'était beau d'entendre ce bébé qui, ben, il a besoin de papa, de maman, mais il a besoin d'une nourriture saine. Et c'est ça, les bébés. Vous savez, ils n'ont pas besoin de parler. Hein. On le voit immédiatement. Il a besoin de ce lait, de cette bonne nourriture. Mais voilà, le danger, le voilà pour nous. C'est que tu ne dois pas rester à l'état d'un nouveau-né. Tu dois devenir un enfant dans le Seigneur. Et puis tu dois devenir, troisièmement, un homme fait à la stature de Christ. Et puis quatrièmement, tu dois devenir un maître, dit la Bible. Je l'ai relisé ce passage dans Éphésiens, puisque je parle de devenir un homme. Et c'est à ce moment-là où quand les vents des fausses doctrines vont arriver, tu vas résister. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit « Les uns ont reçu le don de pasteurs, les autres de prophètes, les autres d'évangélistes, les autres de docteurs et de pasteurs, etc. » Pour eux, pas du tout. Il dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de Christ et de l'édification du corps de Christ. » Alors il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Est-ce que je veux devenir cet homme fait en Christ? Et c'est là où il y aura la fermeté pour nous. Il n'y aura pas autre chose. Ça veut dire que dès qu'il y aura un vent qui souffle et qui est contraire au vent de Dieu, ben voilà que à ce moment-là, je vais pouvoir résister. La fermeté. Je voudrais encore partager quelques petites choses sur la fermeté avant de voir un peu cet après-midi comment tenir ferme. Parce qu'il ne suffit pas, vous l'avez compris, il ne suffit pas d'être ferme. C'est après de tenir ferme en toute occasion. Mais alors, c'est pour cela que j'ai eu à cœur de lire ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 15, où vous l'avez vu dans le deuxième verset, on a noté 1 Corinthiens 15 au verset 18, Et le deuxième était dans 1 Corinthiens 16 au verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Et puis, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et que tout ce que vous allez faire, que tout se fasse avec l'amour. Se fortifier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué qu'au travers de autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, les hommes de Dieu que Dieu a voulu former, utiliser pour son œuvre, il a fallu les fortifier, les former. Alors j'ai surtout été interpellé par la formation que Josué a eue. Sans doute que vous l'avez lu, mais je me permets de relire ces versets, je les ai notés ici. Parlant de cette formation hein, de Josué, il ne faut pas oublier quand même que Josué, ben, Dieu lui confie la suite par rapport à Moïse. Moïse, ce grand homme de Dieu, maintenant c'est Josué. Alors j'ai toujours un peu été impressionné par cet homme Josué. Et alors il lui dit à plusieurs fois, j'ai noté dans Josué chapitre 1, mais à plusieurs reprises, de « fortifie-toi ». L'Éternel. La force est en lui. J'en doute que vous connaissez ce cantique hein, qui dit « La force est en Christ hein, », etc. Et il y en a d'autres cantiques. Et alors, dans Josué, au chapitre 1, ça commence déjà au chapitre 1, quand Dieu appelle Josué, il lui dit au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi en toi que je vais mettre dans ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à tes pères. » Et puis, un peu plus loin, au verset 7, « Fortifie-toi seulement et bon courage et agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, etc. etc. » Et puis au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas. » Et puis, verset 18, de nouveau, voilà ce que je lis. « Tout homme qui sera rebelle, fortifie-toi. » Lisons ce qui nous concerne ce matin. Hein. « Fortifie-toi seulement et prends courage, etc. » La force dans le Seigneur. Si nous prenons nos forces dans le Seigneur, alors nous pourrons résister. Nous pourrons résister à tous ces vents de doctrine, mais nous pourrons aussi résister au diable. Et c'est ça l'important. C'est que de plus en plus, la mort, le domaine de la mort, le domaine des puissances sataniques, de plus en plus, c'est devenu quelque chose de léger. Et alors que Dieu nous demande de tenir ferme contre le diable. Et je voudrais que l'on prenne ce dernier passage que nous connaissons bien dans Éphésiens au chapitre 6, où il y a les armes spirituelles. Nous en reparlerons un peu encore cet après-midi. Mais j'ai remarqué que dans ce passage des armes spirituelles, dans Éphésiens chapitre 6, voilà déjà le verset 10. « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, etc. » Un peu plus loin, si vous permettez, regardez la fin du verset 13, « afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et puis verset 14, « tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, pour ceinture, revêtez-vous, etc. » Et puis, je m'arrête là parce que ces versets, nous les reverrons un peu cet après-midi, la fermeté par nos armes. Mais avant de tenir les armes, est-ce que je suis prêt, lui-même, moi-même, à être fortifié par le Seigneur? C'est ça l'important. Parce que n'oubliez pas le point de départ de ce passage, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa parole toute puissante. Je ne sais pas si c'est pareil dans votre région, mais dans notre ville de Toulouse et toute la banlieue, j'ai jamais vu autant de salles de sport, de musculation, de remise en forme que depuis quelques années. Où c'est que vous vous remettez en forme spirituellement pour avoir cette fermeté? C'est ça. N'oubliez pas ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Oui, l'exercice corporel est utile, mais pour peu de choses. Donc ça veut dire, oui, ben faisons un sport. Moi j'aime beaucoup la marche. Et je marche, la preuve, je vous l'ai dit. On me surveille 24 heures sur 24. Alors, donc je ne peux pas m'échapper. Très bien, j'aime beaucoup la marche. C'est très sain, n'est-ce pas? Quel est votre sport? Mais maintenant, quel est votre exercice spirituel? Exerce-toi à la piété. Alors, la piété, c'est toute l'adoration de Dieu. La piété, c'est toute la foi en Dieu. La piété, c'est tout le service à Dieu. C'est toute ma dépendance de Dieu. Est-ce que Dieu est en priorité, en premier, en nous? Est-ce que c'est lui? C'est ça. Et c'est à ce moment-là où, oui, la force du Seigneur deviendra de plus en plus une fermeté à moi. Fortifie-toi dans le Seigneur et prends et pars sa force toute puissante. Et plus je me laisserai donc fortifier par lui et par lui seul, je pourrai avancer et je pourrai résister au diable. Parce que n'oubliez pas que toutes ces armes que Dieu nous donne, ces armes ne viennent pas d'une armure terrestre. Ces armes viennent de l'armure de Dieu, de l'armurerie de Dieu. Et nous devons nous revêtir de ces armes, comme il est dit, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis, il est bien dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, j'ai besoin d'être fortifié. Et plus je serai fortifié, puisque je lis comme vous, par la force qui vient de la part du Seigneur, plus je serai quelqu'un de résistant. Parce que Dieu dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Je n'ai pas à résister à d'autres personnes. Je dois au contraire avoir de l'amour pour eux, pouvoir les entourer, être avec eux. Mais devant le diable, devant les puissances diaboliques, il faut que je résiste avec la puissance de Dieu, sachant que tout a été déjà vaincu par le Seigneur. N'oublions pas ce que le Seigneur dit, et je pense à ce verset, je préfère le lire pour ne pas l'escamoter. Ce verset où l'apôtre Paul, avant de dire « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, rien ne pourra me séparer de Dieu », il dit quelque chose d'important, il dit au verset 37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et c'est quoi? Qui me condamnera? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité? Rien ne pourra me séparer. La fermeté. Fermeté en lui. Est-ce que nous voulons revoir un peu ce que c'est pour nous, cette fermeté? Est-ce que nous voulons réellement demander au Seigneur, je veux devenir fort, mais en toi, non pas fort devant le monde, mais fort en lui. Et toute la force ne pourra me venir que de lui. Que le Seigneur puisse nous parler, nous montrer au travers de ces versets que nous avons vus ce matin, déjà ce que c'est que la fermeté. Et cet après-midi, c'est important. C'est pas « je suis ferme et j'en suis là ». C'est après « comment tenir ferme devant le monde, devant la société dans laquelle nous traversons ». Est-ce que je suis prêt ? Avant de tenir ferme, est-ce que d'abord j'ai assez de fermeté en moi? Je vous demanderai de vous recueillir. Je vous demanderai surtout de revenir, de reméditer sur les versets de la Bible de ce matin. Oubliez peut-être, pardon, mes paroles maladroites. Mais surtout que nous retenions ce que Dieu dit à propos de la fermeté. Chacun de nous, est-ce que nous sommes passés par les différentes étapes ? Avant de parler de fermeté, est-ce que j'ai reçu un point numéro un ? Est-ce que j'ai reçu le Seigneur à moi ? Est-ce que, deuxièmement, je marche avec lui ? Troisièmement, est-ce que je suis bien enraciné en lui ? Et quatrièmement, alors là oui, vous êtes affermis. Mais attention, ne nous endormons pas. La fermeté, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Il faut veiller, comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 16. Veiller, veiller à devenir toujours des hommes forts en lui. La fermeté. Et c'est pour cela que Dieu nous conduise tout à l'heure dans ce deuxième enseignement. Tenir ferme. Comment je peux tenir ferme ? Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est saine. Merci parce que c'est une doctrine saine. Merci parce que tout ce qui est toi, tu es la vérité. Merci. Nous te prions pour que tu renouvelles à nous une soif, une faim de lire ta parole, de nous appliquer dans cette lecture et surtout dans sa mise en pratique, en application. Ô Seigneur, nous te prions et je te prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ici ne t'a pas reçu, qu'il comprenne que tu es prêt, toi, à le recevoir, que tu es prêt à changer sa vie pour qu'il devienne un nouveau-né. Mais tu nous l'as dit tout à l'heure, tu ne veux pas que l'on reste des nouveau-nés, mais qu'on devienne des enfants et qu'on devienne des hommes faits en toi et des maîtres. Ô Seigneur, je te prie de continuer ton œuvre en moi-même, en chacun de nous, afin que cette fermeté soit de plus en plus solide, bien établie en chacun de nous. Père, je te remercie, Seigneur, pour ces moments. Nous te prions de nous diriger dans les moments de partage, de discussion que nous aurons, dans les moments du repas. Seigneur, que tu puisses bénir tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Mais merci, merci Seigneur de ce que cette salle s'est remplie. Merci de chacun de nous avoir protégés, gardés, parce que certains, c'est vrai, nous venons de loin, mais tu nous as gardés. Ô Seigneur, que tu puisses diriger encore tous ces moments qui nous attendent. Père, je te présente cette prière par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.